Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Bonjour, je suis le bibliologue. Aujourd'hui, je vous parle de l'instrument principal du chevalier. Chez les Chinois, le cheval, ce noble animal, ma, est synonyme de persévérance et de rapidité. Chez nous, il est l'instrument principal du chevalier. Ce qu'explique très bien Georges Guillet de Saint-Georges dans la présentation de son ouvrage intitulé « Les arts de l'homme d'épée au dictionnaire du gentilhomme », imprimé pour la première fois à La Haye en 1678 pour le libraire Adrien Mojans. Ces arts sont divisés en trois parties, l'art militaire, l'art de la navigation et d'abord l'art de monter à cheval. Celui-là enseigne également à dresser un cavalier et un cheval, et le faire manier à toutes sortes d'airs, afin qu'il puisse servir dans les périls de la guerre, dans les nécessités de l'usage et quelquefois dans la pompe des fêtes galantes et des spectacles publics. Ces arts de l'homme d'épée connurent au moins cinq rééditions jusqu'en 1686. Georges Guillet fut aussi le premier historiographe de l'Académie de peinture, où il fut reçu en 1682, et connut un certain succès avec ce livre qui, finalement, fut composé à partir de notes et d'entretiens. Cela pourrait être un livre de journaliste. Ainsi, dans mon dictionnaire, je ne vous donne pas mes propres expériences, mais ce qui est bien d'un plus grand poids. Je vous donne celle de quantité de personnes que j'ai choisies, chacune, dans un art différent, explique-t-il sans détour. Il a ainsi fait appel aux meilleurs spécialistes du moment, notamment Jacques Duclapier de Solessel, écuyer ordinaire de la grande écurie du roi, qui était l'auteur du Parfait Maréchal, dont la première édition date de 1664 et la dernière de 1775. Cet ouvrage est le premier véritable traité de vétérinaire, ce qui a sans doute permis à Guillet d'y puiser ses définitions et de décrire le paracolte, vieille et méchante expression, pour dire un pas averti ou décolle. Ou encore la acné, qui selon lui est un mot qui vieillit extrêmement, c'est-à-dire un cheval qui va à l'amble. Mais revenons aux origines. Xénophon, qui vécut de 430 à 354 avant Jésus-Christ, est considéré comme le fondateur de l'enseignement du cheval et du cavalier, c'est-à-dire de l'hippologie. Ces deux écrits, Péri-Hippiques, de l'art équestre, et Hipparchikos, des devoirs d'un commandement de cavalerie, gardent de nos jours encore toute leur valeur. Le premier de ces deux textes a été traduit en français en 1840 par le baron de Curnieu. Les ouvrages de Xénophon ne fournissent pas seulement une très bonne connaissance du cheval, mais encore une pensée, sans doute inspirée par Simon d'Athènes, dont l'enseignement ne nous est pas parvenu. Nous savons par exemple que la levade, une des plus belles figures équestres, était connue des Grecs, comme le piaffé et le passage, qui figurent sur un bas-relief de Phidias sur le Parthénon. Et lorsque la Grèce sombra, la haute école accompagna sa chute. Les Romains ne réussirent pas à se distinguer dans ce domaine, et les envahisseurs divers qui suivirent leur empire détruisirent complètement ou presque tout souvenir d'un passé équestre. C'est la raison pour laquelle il faut attendre le XVIe siècle pour trouver les premiers grands ouvrages de vulgarisation sur l'art équestre. Cela ne signifie pas que le chevalier n'ait pas été occupé par l'hippologie. De riches manuscrits enluminés en donnent la preuve. Tout a commencé, ou recommencé, lorsque les Français découvrirent l'Académie d'équitation de Ferrare, où officiait César Fiaschi, et celle de Naples, dirigée par Frédéric Grison. Ces écuyers italiens montraient l'obéissance harmonieuse de la monture sous la parfaite maîtrise du cavalier. On compte au moins quatre éditions du tracté de la manière de bien embrider, manier et ferrer les chevaux, avec les figures de mort, de brise, tour, maniement et fer qui sont propres par César Fiaschi. La première en français est due à François de Prouanne, et si Salomon de la Broue fut le premier à mettre par écrit dans enseignements de Naples avec la cavalerie François en 1613, il existe plusieurs impressions de l'Ordini di Cavalcare de Grison, dont nous connaissons une traduction allemande de 1570, illustrée par 87 planches. Le mérite d'avoir fait pénétrer l'art équestre en France revient en réalité à Antoine Pluvinel de la Baume. Il tenait son art de Jean-Baptiste Pignatelli, lui-même élève de Ferschi et successeur de Grison, sous la direction duquel il avait travaillé durant 10 ans en Italie. Son précieux traité d'embouchure est illustré de 84 aquarelles de Pignatelli. L'ouvrage le plus célèbre, composé par Pluvinel, écuyer du duc d'Anjou, est sans doute « Le manège royal » où l'on peut remarquer le défaut et la perfection du chevalier, daté de 1624, dans le format in-folio et orné de 65 planches. L'autre ouvrage de Pluvinel, « L'instruction du roi en l'exercice de monter un cheval », a été de nombreuses fois réimprimé. Contemporain de Pluvinel, William Cavendish, duc de Newcastle, est également vénéré par l'agent équestre. Influencé lui aussi par Pignatelli, Cavendish, considéré comme le meilleur cavalier de son temps, fut durant 3 ans le précepteur du prince de Galles, le futur Charles II. Il réunit la somme de ses expériences dans « La méthode nouvelle », invention extraordinaire de dresser les chevaux, les travailler selon la nature, parfaire la nature, etc., à Angers, en 1658 dans le format in-folio et orné de 42 planches. Il n'en subsisterait qu'une douzaine d'exemplaires, en France tout au moins, car une partie de l'édition fut brûlée dans le magasin du libraire qui l'avait imprimé. L'enseignement de Pluvinel profita surtout à Versailles, à l'école de Versailles. L'enseignement de Pluvinel profita surtout à l'école de Versailles, installée par Louis XIV dans les grandes et petites écuries bâties par Mansart en face du château. Quantité d'écuyers célèbres comptèrent un manège, parmi lesquels M. de Nestier, qui passait pour avoir une admirable position, et M. de Labigne, qui gagna le pari de mettre plus d'une heure à traverser au petit galop la place d'armes. Ces artistes savaient monter, mais hélas, n'écrivaient pas. Pas même les frères d'Abzac, à l'exception de Montfaucon de Rolle, qui a laissé un traité d'équitation à l'imprimerie royale en 1778, illustré par 9 planches. Monsieur de la Guérinière ne fit pas partie de l'école de Versailles, mais dirigea le manuel royal des Tuileries. Il professa de façon si brillante, dit-on, qu'il en éclipsa les écuyers de Versailles. Il raccourcit mort et éperon et codifia de manière fort précise l'enseignement à donner au cheval. Il est l'inventeur de l'épaule en dedans et c'est avec elle qu'il entra dans l'immortalité en éclipsant au passage Messire de Pluvinel. Son école de cavalerie, imprimée en 1773 dans le format in-folio illustré par 18 planches de Parossel, est toujours considérée comme la Bible de l'équitation académique. Et la Révolution mit bon ordre à cette harmonie et balaya sur son passage l'école de Versailles, le manège des Tuileries et celui de l'école militaire. Les sabres de l'Empire avaient une bonne assiette, mais ne se soucièrent pas de la haute école. Si toute l'équitation n'est pas toute la cavalerie, tout n'y est rien sans elle, dira pourtant le maréchal Soult. Et l'on créa Saumur. Pendant ce temps-là, à l'école espagnole de Vienne, le congrès dansait. Pendant longtemps, Saumur et Vienne se regardaient avec commisération. « Ah, Vienne !» lança un jour un cadre noir. « Du cirque !»« Mais du beau cirque !» Une réflexion que le comte d'Or envoyait de temps à autre à son rival François Baucher. Si Antoine Cartier d'Or fut écuyer en chef de l'école de cavalerie de Saumur de 1847 à 1855, François Baucher ne parvint jamais à le devenir. Mais il a réussi à imposer ses méthodes à Saumur contre l'avis de Dor. La querelle dura 20 ans. On cite du premier le traité d'équitation en 1834, orné de 27 planches, et du second le dictionnaire raisonné d'équitation à Rouen en 1833. Ils ne se rencontrèrent qu'une fois. Ce fut glacial. « Quand je monte sur un cheval, disait Dor, je l'envahis. » Le commandant garde-fort, héros de l'une des plus belles nouvelles de Paul Morand, Milady, aurait pu choisir cette remarque-là comme devise. Tous les cavaliers chérissent ce texte, car selon la remarque de Léon-Paul Fargue, il unit la vérité des choses et la vérité des êtres. Milady a été publiée pour la première fois dans un recueil intitulé Les Extravagants chez Gallimard, en 1936, puis a bénéficié d'une édition illustrée par 24 eaux-fortes de Despierres chez Archat, tirée à 120 exemplaires, en 1948. Il y a une suite à l'histoire de Milady. Si vous l'acceptez, je vous la conterai une prochaine fois.